Norbourg, un film dont tout le monde parle depuis quelques semaines. Le film a été présenté en grande première lundi dernier, film réalisé par Maxime Giroux, qui sera à l'affiche vendredi 22 avril. Et le scénario est signé Simon Lavoie. On dit qu'un bon film, pour faire un bon film, ça prend trois choses, un bon scénario et un bon scénario. C'est pourquoi on parle au scénariste aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Lavoie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est Philippe Noiret qui disait ça, je pense, que ça prenait un bon scénario. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation?
C'est presque un calembour, mais c'est en partie vrai. Ça prend d'autres choses aussi, mais ouais. C'est sûr que dans ce type de cinéma un peu narratif, un peu plus classique, comme Norbourg, en fait, oui, c'est sûr que ça prend un scénario qui devient une assise solide pour tout le projet. Mais ça prend aussi des grands acteurs, ça prend un grand metteur en scène. Bref, ce n'est pas que le scénario.
Non, je comprends. C'est comme une image, hein, comme vous le dites, un calembour. Une façon de voir les choses, mais c'est sûr que ça prend une équipe talentueuse autour de soi pour que les scénarios, justement, vivent bien à l'écran.
C'est ça, oui.
Comment a germé l'idée de réaliser un film sur l'affaire Norbourg, qui est, soit dit en passant, un des plus grands scandales, sinon le plus grand scandale financier de l'histoire du Québec?
Bien, en fait, je prendrais ça, la question presque à l'inverse, c'est que comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu encore de film sur Norbourg? Pour moi, ça me semblait tellement évident,
ah oui?
Tellement un sujet proéminent quand on regarde ce qui s'est produit dans l'actualité, dans les dernières décennies au Québec. Donc, il y a quelque chose là qui était tellement, pour moi, incontournable que je me suis même étonné à un certain point que personne d'autre semble avoir de projet là-dessus et tout ça.
Il n'y a personne vraiment qui a jamais eu cette idée de faire un film sur cette histoire-là?
Ah, peut-être que oui, mais j'ai pas été mis au courant de ça. Bref, on n'a jamais eu l'impression qu'il y avait des compétiteurs et tout ça qui... Mm-hmm. Pour revenir à votre question, en fait, c'est pas tant le milieu de la finance, c'est pas quelque chose qui me fascinait à la base, mais c'est plutôt l'audace, en fait, de ces fraudeurs-là, leur sans-gêne, leur espèce de leur habileté à séduire, à convaincre, donc c'est en fait un peu comme tout le monde à l'époque où ce fait divers-là c'est plus qu'un fait divers. En fait, ce scandale-là est survenu. J'ai suivi ça, je suivais l'actualité. Et ce qu'on apprenait au fil des jours était en fait plus en plus étonnant là. Et donc je me suis mis à lire tout ce qui s'est écrit là-dessus, à faire des recherches. Puis ça me semblait à un certain moment qu'il y avait vraiment là matière à faire un film. Puis cette histoire-là était tellement riche là, de trahison, de retournement de situation, en même temps de drame aussi pour les victimes là, qui ont subi cette fraude-là, qu'il y avait vraiment là un potentiel cinématographique évident.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Simon Lavoie, les grandes lignes de ce scandale? Ça s'est passé en quelle année? Et c'est un scandale qui a berné plusieurs milliers de personnes, de Québécois, là.
Oui, tout à fait. Bien, écoutez, donc Norbourg a été fondé en 1998. Le film en tant que tel nous parle plus des années entre 2001 et 2005. Et donc, Norbourg était une société montréalaise donc, de gestion de fonds communs de placement. Donc, des gestionnaires qui éventuellement pouvaient faire l'acquisition de fonds, c'est-à-dire qu'ils possédaient pas l'argent. L'argent était chez des gardiens de valeur, mais ils essayaient de la faire fructifier pour le bien des gens qui avaient des argents dans ces fonds-là. Et éventuellement, l'équipe de Norbourg en est venue à faire des retraits irréguliers, un peu frauduleux, chez les gardiens de valeur, en fait, sous toutes sortes de prétextes, pour faire des tests, des modélisations, pour faire aussi sous prétexte que la clientèle est principalement francophone et tout ça. Donc, mm-hmm.
Et en faisant ces retraits-là, ils se rendent compte que c'est facile.
Voilà, et c'est facile, ils sont capables de maquiller. Et avec cet argent-là, ils parviennent à acheter de nouveaux fonds. Donc, c'était comme une sorte de... pour grossir, on le dit dans le film, pour grossir, se développer, cette entreprise-là a éventuellement se servi de l'argent des investisseurs pour acheter de nouveaux fonds et ainsi de suite. Avec ces argents-là, ils achetaient de nouveaux fonds et chemin faisant, ben ils haussaient leur niveau de vie de manière vertigineuse. Ils s'offraient toutes les dépenses les plus folles. Et en 2005, quand finalement... comme on dit en bon québécois, la balloune a pété. Uh-huh. On s'est rendu compte qu'il y avait un trou de 130 millions, en fait. Une différence de 130 millions entre les argents qui étaient déclarés, ce que les gens pensaient qu'ils avaient dans leurs petites économies, les retraités, tout ça, et la réalité. Et donc, il y a eu 9200, on estime à 9200 investisseurs, donc floués, 9200 personnes qui auraient perdu de l'argent dans l'éclatement de ce scandale-là.
Qui n'ont jamais été remboursés.
Ben, c'est-à-dire qu'au fil des années, ils ont fini par être remboursés en partie, certains en totalité, d'autres pas complètement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le drame, c'est que quand tu as 75 ans et découvres que tu n'as plus rien, que tu es ruiné, même si tu es remboursé au bout de 10 ans, ça t'avance pas à grand-chose. Donc, il y a des gens qui ont dû retourner au travail, des retraités qui ont dû reprendre le collier, des gens qui ont tout perdu, puis qui étaient dans un grand désarroi. Là. Donc, c'est ultimement, ils ont réussi à replacer une bonne partie de l'argent, mais c'est évidemment... trop peu, trop tard pour tous ces investisseurs-là qui étaient souvent des retraités.
J'imagine que ça leur a quand même mis un petit baume d'une certaine façon, vu qu'au bout du compte, ben ils ont eu leur argent, même si c'était tard, ben ils ont gagné d'une certaine façon. Non?
Oui, mais je serais pas prêt à dire ça. Pour ces gens-là, en fait... quand tu es retraité, et c'est maintenant que tu fais ta retraite, c'est maintenant que tu as besoin de cet argent-là. J'ai l'impression que...
Mais c'est pas perdu à jamais, c'est dans ce sens-là que je le dis.
C'est ça. Mais j'ai l'impression que la colère, l'humiliation, la frustration... a pris le dessus. Il y avait quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que ces gens-là ont perdu peut-être foi, à juste titre, en un certain système aussi qui a permis à Norbourg de faire... un certain système qui a été laxiste, qui a permis à Norbourg de pouvoir faire une telle fraude, puis à surtout pouvoir la maintenir pendant presque 6 ans.
Bien oui, ça a été long avant qu'on découvre le poteau rose.
Voilà. C'est ça qui est assez particulier. Donc, il y a plein de facteurs qui sont, qui ont permis ça. Des changements d'orientation politique, des restructurations à la CVMQ, donc l'autorité de surveillance des marchés financiers de l'époque, qui est devenue l'AMF. Je dirais qu'au-delà de l'astuce et de la ruse des gens de Norbourg qui ont quand même qui se sont efforcés de cacher ça le mieux possible, mais il y a quand même eu un certain laxisme du côté des gardiens de valeur, du côté des autorités même, du côté de la caisse de dépôt et de placement et tout ça. C'est comme si Norbourg a pu passer à travers les mailles du filet trop facilement avant d'être démasqué. Donc c'est tout un système qui est un peu échoué là et qui, je pense, depuis a fait son examen de conscience et c'est juré que ça ne se reproduirait plus.
On le souhaite. Mais oui, il y a aussi Éric Asselin là, qui est incarné de façon impressionnante, forte par Vincent Guillaume Otis, qui était un enquêteur de la Commission des valeurs mobilières du Québec, qui est l'ancêtre de l'Autorité des marchés financiers. Lui, il y est pour quelque chose parce qu'il connaît toutes les ficelles. À un moment donné, il va verser vers, j'allais dire le mal, là, mais il va aller dans l'équipe de Vincent Lacroix, là.
Oui, c'est ça. En fait, Éric Asselin, pour nous, dans toute cette histoire-là, c'était le personnage le plus intéressant, en fait, parce que il est moins connu que Vincent Lacroix.
Oui, on ne le connaissait pas.
Voilà. Mais c'est amplement documenté, c'est bien avéré qu'Éric Asselin, c'est comme s'il était toujours deux coups d'avance sur tout le monde. Mm-hmm. Il a embarqué dans l'aventure Norbourg en ayant déjà, comme vous le soulignez, cette capacité à savoir comment ses collègues enquêteurs, qu'est-ce qu'on allait chercher. Et donc, il a réussi à beaucoup aidé Vincent Lacroix et son équipe à en arriver à bien camoufler et à faire les choses de la bonne façon pour ne pas se faire prendre, en fait. Puis, un peu plus tard, sans trop révéler des potes du film, mais c'est une histoire connue. Mais évidemment, Éric Asselin, quand il a senti l'eau chaude, il a été une fois de plus rusé.
Oui,
il a tourné sa veste à nouveau et éventuellement, en tout cas...
Un fin finot, mais ça reste quand même un thriller, alors on ne fait pas tout dire, même si, oui, on connaît l'histoire. Mais il y en a qui ne la connaissent pas, l'histoire, et grâce à ce film... moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Est-ce que le film, justement, qui est inspiré grandement d'une histoire vraie, a fait en sorte que vous vous n'êtes pas laissé aller, vous n'avez pas laissé libre cours à votre imagination pour en ce qui a trait au scénario?
C'est-à-dire qu'on voulait quand même avoir une base rigoureuse. On s'est imposé des limites, en fait. Parce que l'idée, je dirais que dans ce type de récit-là, c'est malgré tout demeurer fidèle à l'esprit de l'histoire. Mm-hmm. Bon, l'histoire, notre histoire récente, mais c'est l'histoire quand même. Donc, évidemment, dans un film de 2 heures, il a fallu synthétiser, il a fallu fusionner, tout ça. Nous, on a pris un certain angle depuis la perspective d'Éric Asselin. Mais je dirais que là où la création entre en jeu, c'est dans l'agencement, c'est dans le rythme, c'est dans la manière dont ce qu'on met de l'avant, ce qu'on élude.
C'est une construction.
Voilà, tous les nœuds dramatiques, évidemment, tous les dialogues sont à peu près fictifs, sauf ce qui a été souvent relaté dans les verbatims des procès. Parfois, on les restitue tels quels, les dialogues qui sont issus des verbatims. Mais en fait, je dirais que c'est une création qui est peut-être assujetti à un certain cadre, je dirais mm-hmm. ça comme ça.
Avez-vous rencontré les protagonistes, je pense à Vincent Lacroix, Éric Asselin, ou à des victimes aussi?
On a fait le choix de ne pas rencontrer Vincent Lacroix ou Éric Asselin, en fait, de ne pas chercher à les contacter, parce qu'on avait un malaise un petit peu au niveau moral à faire ça. En fait, on ne voulait pas tendre le micro à des gens qui ont été donc reconnus coupables ou, dans le cas d'Asselin, reconnus coupables de faillite frauduleuse après les événements. Donc, parce qu'on avait la chance, justement, avec Norbourg, d'avoir un fait divers qui était... Un fait divers, je ne sais pas, un fait divers, comme je disais, c'est une fraude d'une ampleur inégalée dans l'histoire du Québec. C'est beaucoup mm-hmm. plus qu'un fait divers, mais d'un événement qui était amplement et... de manière exhaustive, le documenter. Il y a tellement de choses qui ont été dites et écrites sur Norbourg. Tout est public. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça, on peut retrouver sur Internet là, des interrogatoires, des verbatims de procès, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matière. Puis, on ne sentait pas le besoin d'aller
vers eux.
Avoir la version des faits de ces... On dirait que c'était moralement douteux de faire ça.
Oui. Et peut-être qu'ils n'auraient pas été intéressés non plus à se livrer à vous.
Ben, d'une part, peut-être qu'ils auraient cherché à monnayer.
C'était
encore plus...
Ils sont bons là-dedans, oui.
Quelque chose qui nous aurait été, en fait, face à laquelle on aurait été encore plus mal à l'aise.
Ça aurait fait un autre film, un autre scénario.
Ouais, voilà. Nous, on... Puis aussi... Au niveau juridique, c'est très complexe. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire dans un film? Nous, on a fait un gros travail. On était sous la supervision des avocats. Le scénario a été passé au peigne fin. Ma recherche, tout ça a été... Donc, on voulait s'en tenir à ce qui était quand même du domaine public là, mm-hmm. Le plus possible.
Et Simon Lavoie, est-ce que c'est vrai que vous avez commencé à travailler sur le scénario de Norbourg il y a 9 ans, même 10? J'ai lu
oui,
ça quelque
oui,
part.
Voilà, c'est très...
Mais pourquoi? Pourquoi tant d'années?
C'est très long, en fait. Faire la recherche, juste d'articuler le récit de la bonne manière. On avait le sentiment quand même qu'il n'y avait pas une urgence de sortir ce film-là, parce que c'est quand même un sujet, je pense, universel puis intemporel. Puis de nos jours, il y en a encore de la fraude, il n'y en a plus que jamais avec les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, tout ça. Donc, les fraudeurs vont constamment se renouveler, trouver des manières de commettre leurs crimes. Donc, on n'avait pas un sentiment d'urgence. On voulait prendre le temps de faire bien les choses. Puis aussi, ben, il faut l'avouer, parfois, c'est très long, faire financer un film. Donc, il y a eu le contexte de la COVID aussi. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a été en ligne presque 10 ans, oui.
Alors, bien, je pense que ça a valu la peine de travailler fort. Les gens qui ont vu le film jusqu'à maintenant, ils sont très optimistes, en tout cas positifs, enchantés par ce qu'ils ont vu, même si l'histoire est sombre. C'est bien joué aussi, il faut le rappeler, par Vincent Guillaume Otis, François Arnault qui incarne Vincent Lacroix, il y a également Christine Beaulieu, Alexandre Goyette, Guy Tauvette et d'autres qui font partie de la distribution. Et votre film court la chance de gagner l'Iris du meilleur film. Là, vous êtes dans la course.
Oui, on est bien content de ça.
je vous dis bravo, bonne chance, puis bon succès avec ce film Norbourg. C'était Simon Lavoie, scénariste de ce film qui prend l'affiche, je le rappelle, vendredi 22 avril. Là, tout le monde va pouvoir le voir à travers le Québec. Merci encore.
Merci beaucoup.